Et on débute les matins avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Médecins, aides-soignants, infirmiers, étudiants, les personnels des hôpitaux ont défilé hier en France pour réclamer plus de moyens et d'effectifs. Le gouvernement détaillera la semaine prochaine un plan d'urgence conséquent.
Et pour calmer cette fois la colère des étudiants, les organisations étudiantes sont reçues aujourd'hui par le secrétaire d'État Gabriel Attal. Le risque d'un front étudiant est élevé.
Le cessez-le-feu est bien fragile. Entre Israël et la bande de Gaza, de nouvelles frappes ont eu lieu ce matin. Reportage à Gaza de notre correspondante. Et la question du jour, Guillaume.
Eh bien, traumatisme, comment vivre après la violence politique? Nous poserons la question à Joséphine Vuillard. Elle est porte-parole du centre Primo Levi, un centre de soins et de soutien pour les personnes victimes de torture et de violence politique.
Ils étaient 10 000 à manifester hier à Paris selon les organisateurs, 7 500 selon la police, les personnels hospitaliers mobilisés pour réclamer davantage de moyens. Le président Emmanuel Macron a promis des décisions fortes. Le gouvernement détaillera son plan mercredi prochain. Au-delà des infirmiers et des aides-soignants des urgences qui ont été les premiers à se mettre en grève il y a 8 mois, il y avait aussi dans le cortège parisien hier des médecins effarés par les conditions dans lesquelles ils travaillent désormais. Tara Schlegel est allée à leur rencontre.
Le professeur Dominique Plantas n'a plus manifesté depuis ses études de médecine. Cancérologue, pédiatre, il est maintenant chef du service d'hémato-oncologie au CHU de Grenoble. En ce moment, il n'a à sa disposition que 12 lits, au lieu des 18 qu'il lui faudrait pour soigner ses petits malades, qui bien souvent se retrouvent envoyés ailleurs.
Si on met l'enfant dans un service de pédiatrie générale, les soins seront faits, mais avec beaucoup plus de difficultés, puisque le calibrage des équipes n'est pas le même.
Ça, ce dont vous me parlez, ça arrive?
Oui, bien sûr, c'est en permanence. Et c'est aggravé en plus pendant les phases épidémiques de l'hiver, où les conditions de travail pour les soignants sont épouvantables, avec une peur au ventre pour prendre sa garde, pour savoir quel enfant on va pouvoir... On sait qu'on va... Tous ne requièrent pas l'hospitalisation. Néanmoins, dans la masse des consultations, il faut faire le tri et pas envoyer celui qui risque de revenir mort.
Le docteur Florian Vivret, lui, est urgentiste à Nantes. Et la nuit dernière, la situation était proprement inédite.
La nuit du 13 au 14 novembre, voilà, on discute, on échange. Plus de lits sur l'hôpital de Saint-Nazaire, plus de lits sur l'hôpital de Châteaubriant, plus de lits sur l'hôpital d'Anceny, plus de lits sur l'hôpital de Nantes ce matin.
Ça veut dire
que concrètement, tous les lits d'hospitalisation dans les hôpitaux où il y a des services d'urgence n'ont plus de lits pour hospitaliser les patients ce matin. Ah bah ils attendent aux urgences, c'est ce qu'on appelle les hospitalisations brancards. Et dans les services, bah, mes collègues se demandent quels patients ils peuvent renvoyer à la maison, alors qu'on n'a pas forcément fini les soins. Si le 14 novembre, dans le département de Loire-Atlantique, on n'a plus de lits pour hospitaliser nos patients, l'hiver qui s'annonce va être extrêmement compliqué.
Un constat partagé par beaucoup de médecins venus à Paris manifester. Selon une étude, la moitié des praticiens hospitaliers se disent en burn-out.
Reportage de Tara Schlegel. D'autres manifestations avaient lieu hier, notamment à Toulouse, Nantes, Brest et Lyon, tandis que les sénateurs examinaient en première lecture le projet de budget 2020 de la Sécurité sociale. Le Sénat y a mis brutalement fin hier, dénonçant un mépris du Parlement de la part de l'exécutif. Les sénateurs n'ont pas apprécié les déclarations d'Emmanuel Macron sur le plan d'urgence qui sera donc dévoilé la semaine prochaine. Plusieurs estiment avoir été court-circuités et amenés à débattre d'un texte obsolète. Mardi, les étudiants étaient dans la rue, rassemblés pour dénoncer la précarité dont certains sont victimes. Et depuis, ils maintiennent la pression. Un mouvement né après l'immolation par le feu devant le Crous de Lyon d'un jeune homme de 22 ans en difficulté financière. Depuis hier, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, reçoit les organisations étudiantes. Après la FAGE et l'UNEF, au tour maintenant de l'UNI, la FSE et Solidaires. Le gouvernement a 2 jours pour tenter de répondre à la jeunesse, Annabelle Grelier.
L'écoute et l'empathie d'un jeune secrétaire d'État seront-elles suffisantes pour calmer la colère des étudiants? La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, est en déplacement en Antarctique et Gabriel Attal n'a qu'une maigre carte dans sa manche. Renvoyer les jeunes à la promesse d'un revenu universel d'activité. Mais la concertation est en cours et la mesure, si elle voit le jour, ne s'appliquera pas avant l'année prochaine. On ne peut plus attendre, l'ont prévenu les deux principales organisations étudiantes hier. La FAGE menace d'une grande mobilisation dans les prochains jours, quand l'UNEF appelle à maintenir la pression et assure que les AG sur la précarité étudiante vont s'organiser un peu partout sur les campus du pays dès la semaine prochaine. Leur revendication, un plan d'urgence de refonte des aides sociales étudiantes pour augmenter le montant et le nombre de boursiers, mais aussi un statut d'étudiant reconnu avec des droits. 20% des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté, appelle la FAGE. Elle réclame au gouvernement un investissement massif pour la jeunesse de plusieurs centaines de millions d'euros. Nous voulons un droit à l'avenir, surenchérit l'UNEF, relançant le projet d'une allocation d'autonomie. Les exigences sont claires, le risque d'un front étudiant est élevé. L'UNEF a d'ailleurs déjà appelé à la grande manifestation du 5 décembre prochain.
Les syndicats à Radio France redoutent une nouvelle casse du service public. Réaction aux annonces de la direction qui a détaillé hier les suppressions de postes qu'elle veut imposer d'ici 2022. Cela nous concerne et vous concerne, auditeurs et auditrices de France Culture, une antenne de Radio France comme France Inter et France Info notamment. La présidente Sybille Veil compte supprimer 299 postes, c'est-à-dire 7% des effectifs du groupe, via un plan de départ volontaire sans contrainte ou licenciement et le non-remplacement de postes vacants. Certains métiers sont particulièrement touchés, Maxime Tellier.
C'est un plan de départ dont on parlait depuis la fin du printemps. Et désormais, c'est du concret. La formation la plus touchée par les suppressions de postes est le chœur de Radio France, qui perdrait un tiers de ses effectifs, d'après ce plan, 30 choristes en moins. Mais 17 postes de documentalistes seront aussi supprimés, 25 techniciens supérieurs du son, 16 réalisateurs, notamment pour les fictions sur France Culture. Les flashs sur FIP devraient disparaître et la liste est encore très longue. Ce plan est soutenable. En tout cas, assure la direction qui annonce dans le même temps la création de 76 nouveaux postes, car en dépit des restrictions budgétaires imposées par l'État, 20 millions de baisses de la redevance prévue d'ici 2022, la direction veut investir aussi sur le numérique, la vidéo, les podcasts, le web. Les syndicats de leur côté dénoncent un plan insoutenable qui met en danger la pérennité de Radio France alors que les audiences sont au plus haut et le budget maîtrisé. Un sentiment d'injustice s'installe d'ailleurs, que ne nie pas la direction, mais qui nourrit la colère des syndicats. Ils se retrouvent en intersyndical ce matin. La présidente Sybille Veil rencontre quant à elle les salariés dans la foulée pour leur exposer ses arguments. Pour la suite, rien n'est décidé. Grève sur un seul jour, perlée ou reconductible. La stratégie reste encore à choisir.
Maxime Tellier. Faire la paix nécessite sans doute plus de courage que de livrer la guerre. Les mots d'Éric Ciotti. Il renonce à briguer la mairie de Nice l'an prochain. Le député Les Républicains laisse le champ libre au maire sortant LR, lui aussi, Christian Estrosi. Feu vert pour Thierry Breton. Les eurodéputés ont approuvé hier la candidature du Français au poste de commissaire européen en charge du marché unique et du numérique, notamment. Une très bonne nouvelle s'est réjouie l'Élysée qui espère que la commission prendra ses fonctions le 1er décembre. La précédente candidature proposée par Emmanuel Macron, celle de Sylvie Goulard, avait été rejetée.
7h08 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Margot Delpierre. Et aujourd'hui, Israël a encore frappé les cibles du djihad islamique dans la bande de Gaza.
Et cela malgré l'accord de cessez-le-feu annoncé hier matin. Les tirs de roquettes palestiniennes et les raids israéliens ont continué. L'escalade militaire de cette semaine est la plus meurtrière depuis l'an dernier. Dans la bande de Gaza, certains appellent à la vengeance. Le reportage de Marine Vlaovic.
Ils sont des centaines de jeunes à défiler dans les rues d'un quartier périphérique de la ville de Gaza. Comme un peu partout dans l'enclave palestinienne, ils crient leur colère contre l'accord négocié entre le djihad islamique et Israël.
Nous voulons une réaction palestinienne qui soit égale au massacre perpétré par les Israéliens. Il y a eu des leaders, des femmes et des enfants tués ici à Gaza.
En cause, les attaques ciblées d'Israël contre des combattants du djihad islamique au cours de cette escalade, la plus meurtrière depuis 2018. Des frappes qui ont aussi tué des civils. Hier, 8 membres d'une même famille, dont 5 enfants, sont morts dans le bombardement de la maison d'un militant, quelques heures seulement avant l'annonce d'une trêve, désormais menacée, mais surtout inacceptable pour ce manifestant.
Nous ne voulons pas de trêve. En 2 jours, 34 personnes sont mortes ici. Mais combien en Israël ? Aucune. Alors pourquoi conclure un cessez-le-feu ? Nous voulons mourir dignement ou vivre libre. Les Israéliens nous enferment comme des animaux dans un zoo. Ils nous chassent comme du gibier. Mais nous, on dit non à Israël. Et nous voulons que toutes les factions palestiniennes soutiennent le djihad islamique.
Des critiques visant surtout le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Pour la première fois depuis 10 ans, le mouvement islamiste ne s'est pas confronté à l'État hébreu, mais a fait le choix de maintenir le calme, même précaire.
Marine Vlaovic, correspondante de RFI pour France Culture dans la région. Une tuerie de plus dans un établissement scolaire aux États-Unis. Un adolescent de 16 ans a ouvert le feu dans la cour de son lycée hier à Santa Clarita, au nord de Los Angeles. 2 élèves ont été tués, 3 autres sont blessés. Le tireur a tenté de se suicider, il a été arrêté. Dans le même temps, à Washington, les sénateurs débattaient d'une éventuelle limitation des armes à feu. Au Congrès américain, les auditions publiques se poursuivent dans le cadre toujours de l'enquête ouverte en vue d'une procédure de destitution du président Donald Trump. Les démocrates le soupçonnent d'avoir fait pression sur l'Ukraine l'été dernier en échange d'une enquête sur Joe Biden, l'un de ses rivaux pour la prochaine présidentielle. L'audition aujourd'hui d'une ancienne ambassadrice américaine à Kiev, brutalement limogée, sera menée par 2 hommes. Adam Schiff pour les démocrates, Devin Nunes pour les républicains. 2 personnalités bien différentes qui devraient encore s'affronter. À Washington, Loïc Loury.
Entre Adam Schiff et Devin Nunes, installés côte à côte au sein de la commission du renseignement, la comparaison ne va pas très loin. Les 2 hommes sont élus de Californie mais partagent peu. Le premier démocrate a été choisi pour mener la charge de l'impeachment contre Donald Trump. Jamais un mot plus haut que l'autre. Adam Schiff, ancien procureur, président de cette puissante commission, se veut le visage de l'intégrité.
La question que pose cette enquête en destitution, c'est de savoir si le président a tenté d'exploiter la vulnérabilité de l'Ukraine et inviter ce pays à interférer dans nos élections. Si l'on découvre que le président abuse de son pouvoir et ouvre la porte à l'ingérence étrangère dans nos élections, devrions-nous seulement fermer les yeux ?
Il y a 2 jours, le fossé n'aurait guère pu être plus large avec son adversaire Devin Nunes. Dans sa déclaration préliminaire, le républicain a ainsi accablé les démocrates, la procédure, les médias menteurs et surtout la vérité, en reprenant à son compte des théories complotistes.
Il faudrait qu'on oublie que les démocrates ont essayé d'obtenir des photos de Donald Trump nu, de la part de farceurs russes qui se faisait passer pour des officiels ukrainiens.
Et les 2 élus auront l'occasion de ferrailler une audition mercredi dernier et 8 autres la semaine prochaine. Un bras de fer qui pourrait à la longue devenir lassant pour les Américains.
Loïc Loury, conséquence des premières chutes de neige en France. Un homme de 63 ans est mort hier dans l'Isère. 140 000 foyers sont toujours privés d'électricité dans la Drôme, l'Isère et l'Ardèche. La Saône-et-Loire est ce matin le seul département toujours en vigilance orange pour neige et verglas. Sinon, le temps sera gris sur une grande partie du pays, accompagné très souvent de pluie. Vous aurez au maximum 4 degrés cet après-midi à Lille et Paris, 8 à Brest, 6 à Lyon, 7 à Bordeaux et 13 degrés à Menton.